I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quel accueil! Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration tout à fait singulière puisque nous sommes, vous l'avez entendu, en public au Forum des Images, invités par nos camarades de Panique et de Chroma pour voir ou revoir en leur compagnie Heathers de Michael Lehman. Mais d'abord, on va en causer avec un duo de choc, Karim Debbache. Salut Karim.
Enchanté.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Toi, tu es un vieil habitué de ce rendez-vous. C'est Nos Ciné Extra Bowl spécial Heathers et c'est parti.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Fatal Games en VF, parce que pourquoi pas, hein, après tout. Ça donne, ceci dit, peut-être Stéphane, une idée du côté assez pas si innocent de ce teen movie qui te tient tant à cœur.
Alors, on va déjà préciser que comme les gens ici n'ont pas vu le film, on va pas spoiler.
Non.
Ouais. On va couper nos habitudes, voilà, parce que sinon on va se faire piétiner la gueule avant que le film commence. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est un titre pas innocent puisque Fatal Games, c'est en fait effectivement des jeux un peu fatal, un peu dangereux avec lesquels jouent les personnages principaux. Pour résumer, peut-être le faire un pitch rapide du film. En fait, c'est un teen movie qui date de 88. Et qui raconte en fait dans un lycée dans l'Ohio aux États-Unis la montée en puissance en fait de trois jeunes filles qui sont les filles les plus populaires du lycée
qui s'appellent toutes Heathers,
d'où le titre du film, et en gros c'est elles essayent d'intégrer dans leur groupe une jeune fille qui est interprétée par Winona Ryder qui n'a pas vraiment envie de le faire, mais elle le fait par, on va dire, pour des raisons de popularité aussi. Et elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un jeune rebelle qui est interprété par Christian Slater qui s'appelle JD. Et ils vont faire les 400 coups ensemble. On s'arrête là pour pas spoiler le reste.
Ouais. Très bien. Karim, toi, tu l'as découvert plus tardivement que Stéphane, j'imagine,
le film. Bien plus tardivement que Stéphane, étant donné que bah, déjà, quand le film est sorti, moi, j'avais deux ans.
Ouais,
quand il est sorti en France, du coup, j'avais 4 ans. Ouais. Donc, pareil, je regardais
un
pas
peu,
ce genre de
peu
truc.
Tôt, ouais.
Et
quelle
non,
j'ai
excuse,
découvert au fil de mes pérégrinations sur Internet dans les années 2000, où je me disais, tiens, c'est quoi les teen movies cool? Parce que j'étais déjà un peu fan de John Hughes et de tout ce qui se faisait à cette époque-là, en fait. Et donc, je me suis dit, quels sont les trucs un peu alternatifs, un peu bizarres qui se font dans ce genre-là? Et j'ai fouillé un peu Internet là-dessus et je suis tombé sur Heathers très rapidement, en fait, parce que le film est, comme on l'a dit, plutôt super culte aux États-Unis, beaucoup moins en France. J'ai vu le film, j'ai trouvé ça absolument fantastique. J'étais beaucoup étonné, en fait, que le film soit pas très connu en France, alors qu'il a inspiré, de façon, je pense, assez évidente, plein de films qu'on connaît vachement mieux en France. Notamment Scream, même si ça fait...
Tu me diras rien.
Ouais, bon, mais moi j'aime beaucoup Scream, déjà.
C'est une rupture de génération, là, dans ce coup.
Ouais. Et je pense que c'en est une de ses inspirations. Voilà, sinon, que dire sur Heathers, c'est un film que je trouve vraiment mortel. Qui n'est pas non plus... Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il est un peu alternatif, un peu bizarre. Ça, on peut le dire quand même, c'est un film qui fait la part belle à la violence. C'est un film très violent, un peu trash... assez nihiliste en fait et assez parfois un peu méchant et c'est un des premiers exemples de teen movie des années 80 avec ce ton là. Il y avait déjà eu des teen movies un peu hardcore mais c'était plus en mode fantastique. Carrie, tu vois, c'était Carrie dans les années 70 ou quoi. Là ça arrive après les premiers John Hughes. Donc ça reprend quand même les codes, et d'ailleurs le personnage de Christian Slater est très inspiré de, j'ai oublié son nom, merde, mais du personnage de Breakfast Club, donc du rebelle de Breakfast Club. Et ça en offre une version plus, vous comprendrez, du coup je ne vais pas en dire plus, mais
c'est
assez
super
différente,
d'en parler
un peu plus nihiliste
spoiler,
et un peu plus violente. Voilà.
Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la genèse du projet, parce qu'il a une histoire quand même assez dingue, notamment du simple fait que Daniel Waters avait écrit le script pour Stanley Kubrick.
Oui, alors
tant qu'à faire.
À 23 ans, c'était son premier scénario. En fait, toi, c'est... à 23 ans, t'es là, tu dis, ouais, je vais peut-être faire un court-métrage, on peut avoir des financements de la région.
Je vais peut-être redoubler ma licence.
Bon, c'est pas fait par Stanley Kubrick à la fin. Hein.
Ouais, donc, mais lui, il fait, je vais écrire un truc pour Stanley Kubrick.
Ouais. Non, en fait, c'est un film qui a été fait en réaction, justement, à tout le cinéma de John Hughes. C'est pareil, John Hughes, c'est très connu en France aujourd'hui, c'est très culte. Aux États-Unis, ça a été instantané, en fait, ça a été des cartons à l'époque. Et ce qui emmerdait Daniel Waters et plus tard Michael Lehman, qui, quand il a découvert le scénario, il était assez d'accord avec cette approche-là, c'est que, en fait, les teenagers sont montrés, enfin, les adolescents sont montrés comme des personnages finalement assez angéliques. Et c'est les adultes les méchants, et eux, enfin, Daniel Waters en premier, ça le gonflait. Donc, en fait, quand on dit que le film est assez méchant et sarcastique, c'est vrai parce que tout le monde prend cher, en fait, et sur le même tarif là-dessus. Et alors, effectivement, c'est un film, à la base, c'est un film qui fait 1h40 maintenant, mais quand le scénario, ça faisait à peu près 200 pages.
Ouais, c'était 3 heures.
Ouais. Voilà, 3 heures. Et en fait, en gros, bah, l'idée de l'approche très ambitieuse de Daniel Waters, c'était de dire. Si Stanley Kubrick a fait son film de SF, a fait son film de guerre, et ben en fait il fera son teen movie et ça sera le mien. Je l'écris pour ça, quoi. Et
qui se la raconte de ouf du coup, mais
c'est à la fois très ambitieux et complètement irréaliste.
Et en même temps, c'est une question que je me suis sincèrement posée. Pour moi, Stanley Kubrick, il a fait son teen movie et c'est Orange Mécanique en fait. Et en plus, je trouve que le film est un peu inspiré de Orange Mécanique. Tu vois.
Non, dis pas trop.
Non, j'en dis pas trop. Non, mais ça c'est très vague. Ça, normalement, vous n'avez pas compris de quoi parlait le film encore, je pense.
Voilà. Et du coup, en fait, bon, là où le film a été problématique à faire, c'est que tout le monde trouvait que l'écriture du scénar était formidable. Quand ça a commencé à tourner à Hollywood, lui, il n'avait pas d'agent, Daniel Waters. C'était ses amis. Il est très ami avec Larry Karaszewski et Scott Alexander, qui sont d'autres scénaristes qui ont écrit notamment Ed Wood, Larry Flint. À l'époque, ce n'était pas encore le cas. Mais ils avaient déjà un pied à USC, en fait, à Los Angeles. Et en gros, ils ont fait un peu tourner le scénario. Et c'est Michael Lehman qui l'a récupéré. Et le gag, Daniel Waters le raconte comme ça, c'est quand Michael Lehman l'a appelé pour lui dire « Écoute, moi, je suis intéressé par ton scénar, j'ai un agent, j'aimerais qu'on essaye de le monter. » Enfin, l'autre, au téléphone, il lui disait « Mais t'es qui, toi ?» On passe de Stanley Kubrick à
Jean-Michel Lehman. Personne.
Voilà, exactement. Et vraiment, il l'a pris de cette manière-là en disant, et Michael Lehman lui a répondu, bah écoute, quand Stanley Kubrick t'aura appelé pour te dire non, tu me contactes, quoi. Voilà. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et l'apport de Michael Lehman sur le film est très intéressant aussi parce qu'il a finalement assez raccourci tout ce qui était en trop, en fait, dans le scénario pour le rendre plus digeste, en fait, à la fin. Parce qu'effectivement, 3 heures, si t'es pas Kubrick, faut tenir le coup, quoi. Et après, alors, le problème du film, c'est que c'est un film qui s'est monté à très petit budget. En indépendant, chez New World, qui était une compagnie qui était déjà en train de capoter à l'époque. Comme toujours dans ce genre de cas, il faut un exécutif qui croit au projet pour que ça se fasse. C'est ce qui s'est passé. Et en gros, tous les agents en fait à Hollywood trouvaient encore une fois le script excellent, mais ne voulaient pas que leurs acteurs soient dans le film. Donc du coup, que ce soit Winona Ryder ou Christian Slater, qui étaient Winona Ryder, elle avait sa petite répute à l'époque parce qu'elle était en train de tourner Beetlejuice. Ouais. Et Christian Slater, il sortait du Nom de la Rose, mais c'est un film qui n'avait pas trop marché aux États-Unis. Et en gros, en fait, ils sont passés derrière les agents pour qu'ils puissent accepter de faire le film. Et c'est comme ça que le film s'est monté. Mmh.
Ils ont testé énormément de gens pour le film, notamment
oui,
Brad
alors,
Pitt.
Oui, alors il y a Brad Pitt. Enfin, Brad Pitt est venu pour une lecture, en fait. Ouais.
Et ils l'ont trouvé trop gentil garçon.
Ouais, puis en fait, ils se sont rendus compte des années après que c'était Brad Pitt. En fait, ils ont retrouvé une cassette audio de la lecture et ils se sont dit, ah merde, c'était Brad Pitt. Donc voilà.
Merde.
Et en fait, d'ailleurs, bah, en fait, ça, je crois que c'est Brad Pitt qui leur a rappelé ça quand ils se sont rencontrés pour un autre projet qui s'est jamais fait, en fait, au milieu des années 90. Et il y a eu aussi Justin Bateman, mais bon, c'est des gens qui étaient un peu connus à l'époque, mais qui ne le sont plus du tout vraiment aujourd'hui, quoi. Je ne sais plus. Il y avait pas mal de. Enfin, il y a tous les jeunes acteurs hollywoodiens de l'époque, quoi. Mais c'est vrai que tous les studios trouvaient le scénar mortel, mais ne voulaient pas le produire. Quand ils rencontraient Daniel Waters, ils lui disaient ah oui, c'est super, mais non, on ne va pas le faire. En fait, tu vas écrire notre film de merde à côté, il lui proposait des trucs genre Casper le petit fantôme, ce genre de trucs, et puis en fait lui il comprenait pas, il était complètement, c'est-à-dire il avait une approche extrêmement naïve, c'est-à-dire qu'on se moque un peu du fait qu'il se la pétait en espérant avoir Kubrick, mais c'était plus de la naïveté à l'époque qu'autre chose.
Mais il en rigole aussi, lui aussi, ouais, en voilà, interview après. Voilà. Et mais je crois que ça a un peu, bah, pas pourri, parce qu'elle a eu une super carrière après, mais Winona Ryder a dit avoir quelques problèmes pour trouver des rôles juste à la sortie d'Headers, parce que les gens la voyaient dans Headers et ils voulaient pas être associés à ce projet-là. Parce que vous allez voir que c'est un peu, ça a fait polémique à l'époque, c'était peu consensuel.
C'est un film qui a fait polémique quand il est sorti, mais surtout, alors sans trop rentrer dans le spoiler, ça parle de suicide adolescent, donc le truc c'est que c'était un gros sujet à l'époque. Ouais. ça a été pris comme, parce que c'est assez sarcastique comme film, c'est pas parodique, mais c'est vraiment comment dire, ouais, enfin sarcastique et assez cynique, cruel par moment et cynique. Et du coup, il y a eu des ligues parentales qui se sont un peu opposées à la sortie du film. Mais voilà, après le film n'a pas trop marché en salle, mais encore une fois, le culte est tel que il y a une série télé qui a été faite l'année dernière, une adaptation qui est pas terrible.
Comédie musicale
aussi à Broadway. Donc voilà, aux États-Unis, c'est depuis le temps en fait, c'est même le film le plus, enfin presque le plus connu, enfin pas le plus connu parce qu'on a vu qu'il y avait Hudson Hawk ou Demolition Man de Daniel Waters, mais c'est clairement le film pour lequel il est révéré quoi.
Par ailleurs, j'en profite pour dire que je suis très content de passer un film de Michael Lehman parce que je suis très fan de Hudson Hawk. J'avais la VHS, je l'ai vu 1000 fois ce film de ouf. Tout le monde déteste ce film, universellement.
Non, c'est un chef-d'œuvre.
Non, mais à part toi, mais voilà. Parce que à part les vieux cons.
Voilà,
non,
c'est ça.
Non, mais ouais, merci, mais y a le film a fait un bide. En fait, la carrière du réalisateur du film que vous allez voir ce soir, elle a plongé très vite dans les abysses.
Très compliqué. Parce que
Heathers a été un bide, donc c'est devenu culte après, mais ça a été un bide. Après, il a fait le Applegate, le film.
Mais Applegate,
ouais.
Qui a moins connu qu'Heathers.
Ouais, que ouais. La personne connaît en France, ouais. Qui a fait un bide encore. Et ensuite, il a fait du coup Hudson Hawk, qui a presque détruit la carrière de Bruce Willis. Donc il a enchaîné trois films, mais qui sont bien, les trois sont cool, mais c'était des échecs terribles.
Pour faire juste un aparté sur Hudson Hawk, c'est parce qu'il était fan de Heathers en fait, qu'il leur a demandé de venir faire le film de Bruce Willis, et en gros il voulait la même équipe. Hudson Hawk, c'est une production de Joel Silver, mais c'est vraiment été chapeauté par Bruce Willis, c'était son bébé. Ça a failli détruire sa carrière, tout simplement, parce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un vanity project. Donc c'est vraiment le film fait pour la star, par la star, conçu par la star, produit par la star, etc. etc. Donc il avait littéralement le contrôle sur le film. Et c'est lui qui les a appelés, en fait, pour faire ce film-là. Et ils lui ont saboté son film, hein, en toute honnêteté, parce que lui, il pensait qu'il allait faire une petite comédie d'action sympathique. Et en fait, ils ont fait un espèce de truc méta complètement incompréhensible pour la plupart des gens. voilà. Donc, sauf quand t'as 14 ans comme moi et que t'as les yeux écarquillés quand tu vois ça, quoi, la première fois.
Les méchants dans Hudson Hawk, ils ont des noms de barres chocolatées. Voilà. C'était vraiment, regardez Hudson Hawk, c'est très drôle. Ça m'amuse beaucoup.
Après, il a fait un film dans une radio. Kit Kat,
Yes Sneakers.
Ouais, et après, il a fait une parodie, c'est pas une parodie de Die Hard, mais c'est Airheads, qui est sorti en France aussi. Alors, il y avait un titre.
Radio Rebelle.
Très beau titre aussi. Radio Rebelle, malgré eux.
Et Adam Sandler.
Ouais, voilà. Et Adam Sandler. Et Steve Buscemi. Et c'est un film plutôt marrant, mais plus consensuel, j'ai envie de dire. À partir de là, il est vraiment parti, parce que Hudson Hawk, ça a vraiment été tellement mal reçu par la critique à l'époque, ça a été tellement un bide que, en fait, ils ont eu énormément. Même aujourd'hui, quand on parle avec eux, moi, je les ai interviewés les deux, Michael Lehman et Daniel Waters, ils me croient pas quand je leur dis que j'aimais le film à l'époque. non, mais vraiment, ils disent, on sait, il y a des gens qui viennent nous voir, mais on s'en est pris tellement plein la gueule que, voilà.
On n'y croit pas.
Du coup, c'est lui est parti dans des films un peu plus consensuels, et Daniel Waters est parti dans des films plus. C'est-à-dire, il est parti plus dans la réécriture. On a montré quelques trucs avant la séance, avant qu'on enregistre.
Oui.
Je dis ça pour les gens qui écoutent le podcast à la maison. Des bandes annonces de ces films. En fait, il y a Fort Fairlane, qui était un film produit par Joel Silver, qui est une parodie de détective privé.
Grand film qui a bien marché, ça.
Ouais, un autre film qui s'est planté. voilà, mais c'est pareil, c'était déjà un film où, en filigrane, comme dans Hudson Hawk, il y a une énorme satire en fait, du genre. Donc il y a eu Hudson Hawk ensuite, et puis surtout il a écrit Batman Returns, qui là pour le coup est un carton, mais qui s'est fait aussi défoncer par les fans de Batman à l'époque, par la critique et tout, et après bah, il a réécrit Demolition Man, ce genre de choses, et puis après il a un petit peu disparu, il est devenu réalisateur sur des films plus petits, aussi peut-être un peu plus confidentiels. Il y avait Happy Campers notamment, qui était sa version à lui de Heathers, mais dans les camps d'été. Mais en fait, de son propre aveu, c'est un film qui est beaucoup trop gentil par rapport à ce qu'il avait écrit, parce qu'il n'osait pas diriger ses acteurs et leur faire faire toutes les saloperies qu'il avait écrites, quoi. Et son autre film, c'est Sex and Death 101, qui est un film qui est sorti. Alors, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est le mec qui joue le mentaliste. Là. Qui avait une petite répute à l'époque là. Alors, je suis désolé.
Je vois sa tête. Son nom.
Épaulez-moi les gars. Enfin merde. Simon Baker, non c'est Simon. Ça.
Ouais. Que, comment dites Simon merci. Baker. Ok merci.
On
vous embauche.
J'ai
des contrats.
Et c'est un film en fait. C'est l'histoire d'un mec qui est sur le point de se marier et qui reçoit sur internet, par mail, une liste en fait des 101 femmes avec lesquelles il va coucher dans sa vie. Et il se rend compte que la femme qu'il va épouser, elle est la 35e. Et il se dit « Ah merde !» Donc en fait, il est en train de se demander pourquoi, comment, et c'est un peu en fait, c'est un peu dans la mouvance de ce qu'il fait en général, dans le sens où il y a une espèce de licence poétique aussi dans son cinéma, qui fait qu'il y a plein de moments qui sont impossibles en réalité, comme généralement au cinéma, mais lui, il les pousse vraiment dans ses derniers retranchements pour en sortir l'aspect un peu poétique et un peu décalé, en fait, qui fait, moi, je trouve tout le sel de son travail, quoi.
Et vous en verrez dans Heathers, on en reparlera après, du coup.
Bah, justement, je vous propose qu'on le regarde. Heathers, merci à tous les deux, merci Stéphane, merci Karim, merci à Panic, à Chroma, au Forum des Images, Binge.audio pour toutes les infos utiles, puis on vous dit à très vite.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Binge.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.